Parole d'auteur. Parole d'auteur. Christophe Hyde.
Dans les romans noirs, l'idée fixe tourne souvent à l'obsession, à la monomanie, et elle éteint tout le reste. Elle empêche les rencontres, et elle peut parfois conduire à des actes extrêmes. L'auteur que nous recevons aujourd'hui est un romancier qui goûte ce genre, pour en être l'une des figures depuis longtemps reconnues. Dans son dernier roman, L'envers de la girafe, paru chez Rivage Noir, Pascal Dessin nous met en situation d'observation. Observation d'un quartier où se croisent hommes et femmes, prisonniers pour beaucoup de leur obsession. Le destin les dirige vers un point de rencontre où les attend une girafe pour le meilleur et pour le pire. Bonjour Pascal Dessin.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cette invitation au micro de Parole d'auteur pour nous parler de votre dernier roman. Alors les deux dernières fois, quand vous êtes venu, vous nous aviez rendu visite pour des livres qui évoquaient le 19e siècle.
C'est vrai.
Dans la figure du colosse de Montastruc et d'un fait divers et politique retentissant, qui se passait en 1886, l'affaire Vatrin. Mais dans ce dernier roman, qui s'appelle L'envers de la girafe, vous revenez à vos premières amours. Celle du roman noir. Alors, il va sans dire que vous avez été récompensé ces 30 dernières années par de nombreux prix, le Grand Prix de la littérature policière, le Prix du mystère de la critique. Mais alors, pourquoi maintenant, après deux livres à connotation, enfin en tant qu'historique, pourquoi ce retour aux sources d'une certaine manière, que vous n'avez jamais abandonné parce que...
Non, parce que le précédent roman noir n'était pas si vieux que cela, il était 2019. C'était l'horizon qui nous manque. Et puis après, il y a eu un événement que vous connaissez, qui s'appelle la Covid, qui a posé un petit peu le jeu éditorial, qui a bousculé les calendriers, on va dire. Et puis c'est une période où je me consacrais plutôt effectivement aux récits, puisque j'ai publié deux récits également à la Salamande, Vers la beauté toujours, et puis Une femme sauvage, à l'automne dernier. Et... En effet, c'est deux romans avec pour toile de fond le 19e siècle. Donc c'est une pause, raisonnable dans mon travail d'auteur du noir. Vous savez que ça faisait longtemps que j'avais envie d'élargir la palette. Et je crois que la principale raison est quand même le calendrier éditorial.
D'accord.
J'aurais pu revenir un peu avant.
Alors, en effet. Mais alors, ce que je fais habituellement quand je reçois un auteur que j'ai déjà reçu, c'est de feuilleter un petit peu les livres précédents. Et puisque vous parlez de ce dernier roman noir que vous avez fait paraître, qui s'appelait L'horizon qui nous manque, et que j'avais lu, et que j'avais particulièrement apprécié, je le feuilletais et je suis tombé sur un passage qui m'avait particulièrement frappé. Est-ce que vous accepteriez que je le lise?
Avec plaisir.
Aux auditeurs et
aux
auditrices de Radio Présence. C'est un petit peu un contre-pied, hein, parce que vous venez pour parler de votre nouveau roman, mais je vous parle de l'avant-dernier. Voilà. Et j'aimerais, c'est peut-être un peu pour faire sentir aux auditeurs votre style, la force du style. Alors je lis. Les chars à voile sillonnaient la plage tout là-bas. Un tracteur les avait rapprochés des vagues. Les voiles de toutes les couleurs s'étaient ensuite dispersées comme des papillons affolés. Jamais la mer n'avait reculé si loin. Des hirondelles chassaient, survolant très bas la vasière. Une libellule a zigzagué, non loin de moi. J'en ai remarqué une deuxième, puis une troisième. Elles venaient de la mer, seules ou à deux, et dans ce cas, elles étaient attachées l'une à l'autre, on aurait dit qu'elles formaient des cœurs. Ambiance de plage, du nord. Et là, vous revenez avec un livre, c'est la ville, le noir. Je les ai vus un peu comme deux livres en contraste d'une certaine manière. Ouais. Et peut-être aussi, mais peut-être vous allez le dire aux auditeurs, c'est un peu votre double culture, c'est-à-dire la culture du nord et puis Toulouse, puisque la ville... C'est Toulouse.
Oui. Moi, je suis un auteur qui aime tenter des choses variées. Je ne peux pas m'empêcher d'écrire le Nord aujourd'hui. C'est un pays tellement émouvant, aux couleurs tellement belles, aux ambiances tellement fortes. Donc, effectivement, c'est une partie de mon travail, c'est une face de la médaille. L'autre face, en effet, la ville, Toulouse, que j'essaie aujourd'hui de dépeindre d'une manière également poétique. Hein. J'aime j'aime la ville de Toulouse insolite, un peu en marge, pas en marge en, par l'idée qu'on pourrait se faire de la banlieue, tout ça, mais en marge dans son dans ses quartiers les plus ordinaires, c'est-à-dire les endroits décalés. Voilà. Le roman noir, c'est souvent le roman d'un dérapage et d'un décalage. Donc j'aime les endroits décalés, j'aime les endroits que souvent on n'a pas racontés, voilà, parce qu'ils ne se présentent pas comme une évidence à nous.
Et dans ce roman, L'envers de la girafe, il y a cette scène inaugurale, totalement. C'est un procédé narratif assez original,
oui,
puisqu'il débute dans une salle de télésurveillance, si je peux appeler ça comme ça, enfin je sais
voilà,
pas comment vous
l'appelez. Oui, de vidéosurveillance à travers un personnage qui s'appelle Gaspard. On va découvrir le quartier où va se jouer le drame, où vont se croiser les personnages, ou pas d'ailleurs, puisque certains d'entre eux vont jamais se croiser, en tout cas vont jamais se connaître, se croiser physiquement peut-être, mais sans se reconnaître. C'est disons un exercice qui m'a plu, parce que c'est un peu la manière d'un metteur en scène, hein, d'un réalisateur. Il est devant un écran comme un réalisateur pourrait dire moteur pour que une action commence. Et effectivement, c'est un point de vue ordinaire aujourd'hui, puisque il y a des caméras partout dans la ville. On peut souvent le déplorer, je trouve, mais ça nous permet effectivement de découvrir ces personnages par ce regard d'un vieux monsieur proche de la retraite et qui a sous son aile un curieux personnage.
Oui, alors il surveille une intersection, un boulevard.
Oui.
Alors, on sait un petit peu...
Ah bah c'est le boulevard de l'Ours, bon. À Toulouse, que j'ai rebaptisé Avenue du Paradis. Faut pas y voir un clin d'œil particulier. C'était pour comment pourrait-on dire? Je voulais rendre ce lieu poétiquement accessible par tout le monde, pas seulement par les Toulousains, voyez.
Mmh. Donc, il n'est pas utile d'être Toulousain pour lire.
Voilà, Toulouse est nommée, Toulouse est reconnue par certains aspects, mais cette avenue du Paradis est universelle, c'est d'une certaine façon.
Et alors, les personnages, parce que on rentre en effet par cette vidéosurveillance, on observe des gens du quartier, qui sont d'ailleurs... nommés par ce qu'ils sont en train de faire. Il y a cette femme nue sur un balcon,
voilà,
et un homme à la craie.
Voilà, les personnages sont découverts, comme souvent on les découvre dans la vie même, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas leur identité, on ne connaît pas leur nom, hein, et tout d'un coup, on rencontre quelqu'un, on dira, tiens, c'est l'homme au petit chien, ou c'est l'homme qui porte un rat sur l'épaule, ou c'est l'homme qui titube tous les soirs à 19h sur le trottoir d'en face. Voilà, on définit souvent les gens, quand on les connaît pas, par l'action qu'ils ont sur l'espace public. Et donc il se trouve là que du regard de Gaspard, en l'occurrence, et de nombreux autres personnages, il y a la femme nue à son balcon, il y a l'homme à la craie, et qui deviendra l'homme sur le toit au bout d'un moment, l'homme des lichens aussi.
On y viendra.
Voilà, et n'allons pas trop vite. Mais voilà, c'est... Donc il y a Gaspard, lui c'est très clair, il est dans sa fonction, c'est l'homme qui voit tout, ou presque. Il y a Lucas, mais qui est l'homme à la girafe, on en parlera sans doute, l'homme à la craie, et puis la femme nue à son balcon, avant que d'autres personnages ne rentrent en scène, qui là seront définis parce qu'il y a un élagueur qui s'appelle Ahmed.
On est en train de faire d'une certaine manière du mal à cette avenue.
Ah bah complètement, il faut qu'il y ait de la souffrance quand même. Il faut que ça saigne. Mais ouais. Là c'est de la sève. Bon, mais c'est aussi brutal, hein. C'est aussi brutal. Surtout quand l'élagage se produit hors saison raisonnable, on va dire. Bon. Donc, à un moment donné, effectivement, le drame vient du fait qu'un élagage violent est décidé à un moment où il serait raisonnable de laisser les arbres en paix. Mmh. Voilà. Ce qui va bouleverser complètement la femme nue à son balcon, qui a sous ses yeux un nid de chardonneraie, justement au berceau de quelques branches d'un platane de cette avenue.
Sur cette scène inaugurale, parlant de vidéosurveillance, comment vous est venue cette idée Parce que bon, on dit qu'en Chine, on a généralisé la surveillance sociale avec la reconnaissance faciale. On a tous dans nos téléphones maintenant, il suffit qu'il se passe quelque chose dans la rue pour qu'on ne va pas aller secourir la personne en difficulté, mais on sort l'appareil pour filmer la scène. Enfin,
C'est tellement devenu ordinaire. Hein, on est entouré tout le temps de caméras. Chacun peut à un moment donné être attentif à son univers immédiat sous une forme ou une autre. D'ailleurs, quelquefois, elles ont de drôles d'allure, ces caméras, sur l'espace public. On est tous entourés de caméras. Et puis, on sait que, en théorie, dans un central, il y a des hommes qui scrutent les images rendues par ces machines. Bon, c'est pas de la science-fiction. Ça pouvait l'être il y a 40 ans. Mais aujourd'hui, ça s'est tellement banalisé. Je n'ai pas inventé grand-chose. Là, je crois que dans certains films, on a déjà vu de pareilles circonstances. Hein,
Scènes. Et c'est vrai que... Je veux dire, ça contamine un peu le début du roman où, même sans passer par la vidéosurveillance, les personnages s'observent les uns les autres. On s'observe les uns les autres. En fait, c'est comme un roman choral parce que il n'y a pas qu'un narrateur. C'est chacun donne son point de vue.
Ah bah oui. Après ce chapitre inaugural avec Gaspard, les personnages lui échappent d'une certaine façon. Ils prennent chacun leur tour la parole. Alors là pour le coup c'est du théâtre quelque part, hein, puisque les personnages gravitent sur cette avenue comme sur un plateau de théâtre et vivent leur vie. Voilà. Quelles seront les interactions? Ça c'est la combinaison. Des vies et des destins ordinaires des personnages qui
vont assez mal pour tout dire.
Oui. Ils vont pas mal, mais ils sont tous victimes de ce qu'on peut appeler aujourd'hui une éco-anxiété. Mmh. Hein, ils ont mal à la planète, hein, chacun à leur façon. Zélie, qui est la femme nue à son balcon, elle a mal au chardonneret. Elle voit qu'on va on va dépouiller les arbres de leurs branches alors que les feuilles poussent là fraîchement. Elle a mal aux arbres, elle a mal au chardonneret. Bon, l'homme à la craie, lui, il a une profonde douleur parce que il est porteur d'un drame sentimental au sens large, puisque il y a eu un drame qui a impliqué sa compagne et son meilleur ami, et lui se soigne de cette douleur en instruisant les gens, en écrivant le nom des plantes sur les trottoirs. Là aussi, je n'ai pas inventé grand-chose, puisque c'est un botaniste de Toulouse, du Muséum d'Histoire Naturelle, Boris Pressec, qui pendant quelque temps a rempli ce rôle. Et c'était très émouvant, parce qu'il nous instruisait sur les dites mauvaises herbes, alors que quand on les connaît un peu, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas mauvaises du tout, bien au contraire. Et donc, l'homme à la craie inscrit comme ça sur les trottoirs le nom des plantes pour émouvoir, pour montrer à quel point la beauté existe même en milieu urbain, même en terrain gratte, je dirais bitumé, et voilà. Donc lui c'est son moyen de c'est sa thérapie, on va dire, c'est son médicament. Les rudérales, celles que j'appelle les insignifiantes, les belles de bitume. Voilà, donc ce sont des personnages. Je cherchais un moyen de raconter l'éco-anxiété. Voilà. Je crois que le mot n'est jamais cité. Hein,
non, pas du tout.
Non, oui, voilà.
Mais on sent quand même que la ville, après le Covid et tout ça, c'est une ville un peu de névrose, hein, où y a, malgré la densité des humains, il y a une densité de solitude importante.
En milieu urbain, oui, je trouve de plus en plus, je trouve les gens de plus en plus dans une grande solitude, mais douloureuse. Parce que je trouve que depuis quelque temps, il y a une agressivité que je ne ressentais pas auparavant. Même dans une ville comme Toulouse, qui longtemps semblait différente, plus tranquille, plus détendue, plus gentille. Je trouve que comme de nombreux espaces publics aujourd'hui, il y a une tension qui est déplaisante, qui est fâcheuse, et que moi je regrette. Donc le livre peut-être raconte ça aussi.
D'accord. Mais puisque nous parlons de tension dans la ville, je vais vous proposer d'écouter une chanson de Maxime Le Forestier qui en parle aussi.
Comme un arbre dans la ville, je suis né dans le béton, coincé entre deux maisons, sans abri, sans domicile. Comme un arbre dans la ville, comme un arbre dans la ville, j'ai grandi loin des futaies où mes frères des forêts ont fondé une famille. Comme un arbre dans la ville, entre béton et bitume, pour pousser je me débat, mais mes branches volent bas. Si près des autos qui fument, entre béton et bitume, comme un arbre dans la ville, j'ai la fumée des usines. Vos prisons et mes racines, on les recouvre de gris. Comme un arbre dans la ville, comme un arbre dans la ville, j'ai des chansons sur mes feuilles qui s'envoleront sous l'œil de vos fenêtres serviles. Comme un arbre dans la ville, entre béton et bitume, on m'arrachera des rues pour bâtir où j'ai vécu. Des parkings d'honneur posthume, entre béton et bitume, comme un arbre dans la ville. Ami fait après ma mort, barricade de mon corps et du feu de mes brindilles. Comme un arbre dans la ville.
Parole d'auteur. Christophe Hyde.
Après cette chanson de Maxime Le Forestier, accompagné de Jean-Félix Lalanne qui chantait déjà au siècle dernier la résistance au béton et au bitume, nous sommes de retour avec Pascal Dessin pour son dernier roman, L'envers de la girafe, paru aux éditions Rivage Noir. Alors comme nous le disions lors de la première partie, l'action du livre se situe dans un quartier populaire de Toulouse, à un croisement d'une avenue sous caméra surveillance. Alors je disais dans l'introduction aussi du début de l'émission, que souvent une tocade, une marotte peut être l'occasion d'une vocation, d'un intérêt partagé, mais que ça peut être aussi quelque chose qui tourne très mal, l'obsession. Et il se trouve que parmi vos personnages, l'un d'eux va trouver un échappatoire à son malheur, à son mal-être. Alors je ne sais pas s'il est éco-anxieux, hein, Lucas, mais à travers une obsession. Et cette obsession, en fait, elle fait le titre du roman, c'est la girafe.
Ouais, ouais.
Alors, pourtant, on sait qu'on est au moment de la sixième extinction de masse. Hein, il y a beaucoup d'animaux qui sont en danger. Mais pourquoi, lui, il s'intéresse à la camélopardalis? Alors, il faut expliquer à nos auditeurs et auditrices.
Oui, mais alors la girafe, c'est vrai que la grande faune, en particulier africaine, est en grand danger malgré tous les efforts que des naturalistes, que les pays africains font pour essayer de la préserver, mais face aux intérêts divers d'exploitation de forêts, de terres rares, il est évident que ce qu'il demeure en Afrique de plus en plus, mais c'est pas très différent de ce qui peu à peu s'est passé sur les autres continents et en particulier en Europe, c'est que la vie sauvage se voit réduite à des sanctuaires, à ce qu'on appelle des réserves, voilà. À la condition d'ailleurs que les sous-sols ne sont pas
porteurs de métaux rares,
voilà,
de terres
rares, et prédatés par les uns et les autres. Donc je voulais, voilà, je cherchais un animal symbolique, un grand animal. Qui me ferait réfléchir à cela. Moi, j'ai toujours été très ému par un roman que j'ai lu plusieurs fois de Romain Gary, qui a eu le prix Goncourt, je crois, en 62, et qui est, puisqu'on ressort les vieilles œuvres, Maxime Le Forestier, là, je ressors Romain Gary et Ses Racines du Ciel. Les racines du ciel, c'était quoi pour lui? C'était les éléphants, c'est-à-dire ces animaux qui font le lien entre la terre et le ciel. J'aimais bien cette idée, c'est une idée extrêmement poétique. J'aurais pu choisir l'éléphant aussi, mais en milieu urbain, l'éléphant aurait été un peu sinistre, gris sur gris. Voilà. Alors, je voulais quelque chose d'un peu clownesque, d'un peu plus drôle, parce que je voulais aussi que ce roman ait, malgré la gravité du propos, ait une certaine légèreté, une certaine fantaisie, plutôt. Donc voilà. Alors, mon Lucas, en l'occurrence, est dans une folie de la girafe. Il a une c'est un garçon de 30 ans qui a vécu jusque-là de peu, qui a multiplié les stages, les formations. C'est quelqu'un qui n'a justement pas beaucoup de formation culturelle, mais comme chacun, à un moment donné, il a une lubie qui l'élève, une lubie qui le construit, qui l'instruit, et il rentre dans cette folie, justement, de la girafe. Il veut tout savoir sur la girafe, l'endroit, l'envers, le haut, le bas, toute son histoire, et c'est pour lui... Alors, effectivement, il n'est peut-être pas éco-anxieux, ce garçon, mais il a un autre problème sur les bras. C'est qu'à 30 ans, il se voit avoir la responsabilité d'une vieille mère impotente et acariâtre. Mmh. Et donc, c'est son refuge. Et donc, il se pique de cette culture naturaliste qu'il appréhende dans une gourmandise, mais dans un désordre aberrant.
Enfin,
voilà.
Il va quand même aux racines de la connaissance sur l'animal à travers des lectures savantes, hein, des
oui,
siècles passés.
Oui, mais il dérape souvent. C'est-à-dire qu'il se prend pour Buffon, mais après ça devient assez punk et son langage tout d'un coup dérape. Il a une certaine distinction qu'on peut croire issue, née du 16e ou du 17e siècle. Et puis tout d'un coup, il a un propos ordurier. Il contrôle pas tout. Il n'a pas la haute main sur sa matière, sur sa culture. Voilà. Et moi, j'ai adoré écrire ce personnage parce que il a une façon vraiment très personnelle de se défendre du mal qu'on lui fait. Et c'est un personnage de roman, donc.
Ouais. Et il nous emmène sur les pas de la girafe, qui va venir en France.
Ah, il y en a plusieurs qui sont
venus
en France.
Qui vont venir en France. Voilà. On apprend des choses au-delà du plaisir, du suspense, du noir, de la sensation, parfois même un peu... Parce que parfois, c'est un peu déplaisant, quand même, la relation de Lucas et sa mère.
Ah ben,
moi,
j'étais mal. C'est plus que déplaisant, c'est nocif.
Voilà, c'est ça.
C'est complètement néfaste, c'est terrifiant. On ne peut pas traiter sa mère comme ça.
Mais en contrepoint, voilà. Donc, ce qu'on apprend sur la girafe, c'est quand même... Alors, il y a Buffon, vous en avez parlé, hein, Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon,
voilà,
qui venait de Dombard, qui s'est intéressé... l'un des premiers à s'intéresser à la girafe.
Oui, c'est la première représentation que l'on connaisse et qui n'est pas très sérieuse. Elle est assez solide, sa représentation de la girafe. Oui, c'est Buffon. Après, il y a eu des tas de naturalistes.
J'ai noté Lamarck, Geoffroy Saint-Hilaire.
Voilà.
Et Lamarck, il y a cette page qui m'a vraiment frappé. On parle de coévolution de la girafe et de l'acacia.
Alors c'est une théorie, mais j'y crois assez parce que je la trouve très poétique. Alors il faut imaginer bien sûr que ça se passe sur centaines, des milliers d'années, peut-être. Mais l'idée c'est que l'acacia s'est défendu de l'agression faite par la girafe en poussant. hein, en pensant échapper justement à la voracité de l'herbivore, de ce grand herbivore. Et alors que, les, que la girafe, aux origines, avait la taille d'un chameau, d'où sa classification, petit à petit, pour pouvoir manger, la girafe s'est vue voir son cou augmenter en taille. Donc voilà, c'est une théorie qui est assez, assez intéressante. Et puis ensuite, il a fallu se défendre parce que on pouvait pas pousser non plus trop haut en tant qu'acacia. Donc on a développé des poisons pour essayer de rebuter la girafe, mais ça n'a pas marché parce qu'elle a trouvé une autre stratégie.
Oui, c'est de passer d'un acacia
voilà,
à un autre.
Non, voilà. Non, mais c'est immensément insolite et poétique, je trouve.
C'est avant le darwinisme, c'est avant la pression, c'est avant Darwin.
Oui,
la
marque, oui.
Et il y a le il y a la girafe toulousaine.
Et voilà.
Et Nicolas Joly.
Ah oui, ça c'est... Alors, c'est pas la grande girafe qu'on voit dans le hall du muséum.
Je vous interromps juste un instant. Je connaissais Punch, ça se passe plus tard que la girafe, mais l'éléphant du cirque Pinder, qui avait dû être tué, il avait perdu son dresseur et donc il avait fait une dépression hostile. Et donc on avait appelé l'armée pour le tuer et on l'avait donné ensuite pour le naturaliser à Toulouse, au muséum. Ça, je le connaissais, cet éléphant. Mais cette girafe...
Non, oui, alors c'est pas la grande girafe hein, qui est dans le hall, c'est celle qui est à la bibliothèque. Ben voilà, elle a eu un destin funeste. Mmh. Elle est arrivée à Toulouse dans de mauvaises conditions. On a même parlé à son propos de suicide, tellement elle déprimait. Et puis c'est ce qui est advenu après. C'est ce qui est advenu qui est terrifiant, je trouve. Mmh. Mais on n'en dira pas plus à vos auditeurs. Il faut qu'ils lisent le bouquin.
Non.
Voilà. Mais,
il y a le très beau mot de Nicolas Joly qui s'est intéressé.
Oui.
Il dit, elle est magnifique dans sa parure, bizarre dans ses formes, singulière dans sa démarche, colossale par la taille, inoffensive par caractère.
Ouais. Oui, mais c'est une époque, on est dans une folie girafe, il y a une mode girafe incroyable, on fait des papiers peints girafes, on des objets en forme de girafe, il y a une folie girafe, c'est un animal immensément sympathique, quand il vous regarde cet animal, il se dégage de lui une tendresse infinie, c'est incroyable.
Alors je vais faire peut-être un rapprochement, vous me direz ce que vous en pensez, mais... Tout d'un coup, ça m'avait fait penser à votre livre « Le Colosse », où Jean-Pierre Mazas, le Colosse, était monté à Paris et étudié par la sommité de l'époque, Édouard Brissot, à la faculté. Et j'ai ressenti dans votre livre aussi la tendresse que vous aviez pour la girafe en disant « Mais au fond, cette girafe, on l'emmène au Caire et puis Zarafa, etc. »
Voilà.
Et j'ai retrouvé la même impression que ce Jean-Pierre Mazas qu'on étudie comme un cas, c'est la science de la fin du 19e siècle, c'est le scientisme d'une certaine manière, alors, qui apporte beaucoup de connaissances, bien sûr, hein, sur la girafe ou sur les maladies, l'acromégalie du colosse, mais il y a comme une sorte d'insensibilité qui est très bien décrit dans votre livre.
Oui, il y a un lien auquel je n'avais pas pensé, mais logique, en effet, parce qu'un livre... conduit au suivant et le suivant peut s'expliquer par le précédent si je peux me permettre. Et effectivement moi je m'intéresse aux personnages qui n'ont pas la vie belle, qui souffrent et dont on abuse sous une forme ou une autre. Donc c'était déjà effectivement le cas du colosse hein, qui était ô combien cabossé par la vie. Et c'est vrai que dans le destin de ces girafes que je raconte, il y en a donc plusieurs, il y a cette idée du mal qu'on peut faire à une telle créature, et il y a un lien évident. Pour la science, voilà, alors on en saurait certainement moins sur la girafe aujourd'hui s'il n'y avait pas eu toutes ces aventures malheureuses tout de même, exotiques, mais malheureuses. Mais c'est quand même un peu triste toujours que des individus du vivant, hein, que ce soit des humains ou issus du monde animal, souffrent pour le bien de la science. Voilà.
Alors pour la girafe, Pour finir avec la girafe, mais on n'en finit jamais avec la girafe non, dans un livre qui s'intitule L'envers de la girafe. Je voudrais faire un détour quand même par la couverture.
Oui.
Que j'ai trouvé totalement, je vous l'ai écrit par mail, ouais. Raccord avec le texte, parce que c'est, voilà. Est-ce que vous pourriez la décrire aux auditeurs et auditrices
alors,
de Radio Présence?
Bien sûr, c'est, ça se passe la nuit déjà, et dans ce qui est un environnement purement urbain, on voit un bâtiment, on ne sait trop ce que c'est, peut-être un hangar. Il y a des vélos, en tout cas, contre une barrière, et dans une ambiance, alors là, pour le coup, très David Lynch, hein, il y a une girafe de dos, avec les oreilles très éclairées, il y a certainement un projecteur au-dessus. Donc, une girafe qui est en position de marche, on va dire. Mais là, elle est posée. Elle est en attente de quelque chose. Voilà.
Il y a de l'incongruité, il y a de la poésie.
Tout à fait.
Bon, on est loin de Sophie la girafe.
On est très, très loin de Sophie la girafe. Et puis, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'elle donne envie qu'on la suive, quoi. Mmh. Voilà. Non, et puis, c'est un clin d'œil. Vous savez, en ce moment, il y a les machines à Toulouse et ces grandes créations que de temps en temps, on nous sort dans les rues de Toulouse. Et donc, pourquoi pas une girafe un jour ?
Ouais, ouais. Et est-ce que vous avez la main sur le choix des couvertures ? Parce que...
Oh ben, on discute, bien sûr. Ouais. On m'a fait plusieurs propositions et très vite... On est arrivé à l'idée que c'était la plus poétique, justement. Et on ne pouvait pas faire sans la girafe avec un titre pareil. Mais ça ne pouvait pas être banal. Donc, il y a eu un projet d'une girafe place du Capitole. Ça ne m'a pas enthousiasmé, par
D'accord.
exemple. Voilà.
Ah. Vous avez parlé de l'homme à la craie. Vous avez bien décrit qui il était et combien il était inspiré... d'un personnage réel, mais j'aime un personnage un peu annexe, un peu secondaire, c'est Glypho. Glypho, c'est...
Ah, Glypho.
C'est un personnage...
Alors, il est lui, par contre, pourtant.
Alors lui,
vous voulez vraiment
voilà,
qu'on
vos
en
belles
parle.
De bitume, il va s'en occuper. Parce que lui, il ouais. c'est un jardin, c'est au cordeau, hein, c'est sans mauvaises herbes, parce que lui, c'est les bonnes et les mauvaises.
Voilà,
c'est assez
voilà.
simple. Voilà, c'est un personnage...
j'espère que
il a mis du piment. Hein.
Oui. Alors j'espère que des auditeurs, des auditrices vont pas se reconnaître parce que je sais qu'aujourd'hui il y a quand même un réflexe, un vilain réflexe de gens qui possèdent des jardins de faire en sorte que ce soit tout propre. Alors on a chacun sa définition du propre. Donc propre, c'est des fois l'herbe bien coupée, sans une fleur, avec de bonnes belles bordures. Voilà, il y a rien qui dépasse. Et puis malheureusement, donc pour en arriver là, on est bien obligé de mettre des produits chimiques. Voilà. Mmh. Donc c'est quelque chose que je déplore évidemment, puisque c'est la raison d'une disparition d'une certaine biodiversité, hein, que ce soit à la campagne ou en ville. Et c'est bien triste. C'est bien triste quand un jardin est un peu la mort, quoi. Hein, mmh. La mort de tout. Le pire, c'est quand même quand, au lieu de garder de l'herbe, on met de la pelouse synthétique. Mmh. Voilà. Donc, ça va encore plus loin. Et là, il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et voilà. Et c'est quand même désolant. Voilà. Donc, pour raconter ça, et qui est une réalité dans les villes et dans les campagnes, malheureusement, j'ai mis en scène un personnage, justement, qui est désigné par la pire des choses qu'on peut répandre dans les jardins, c'est du glyphosate. Voilà. Donc, il s'appelle Glypho. et Glypho, il croit bien faire. Hein.
Il va lui arriver des choses.
Voilà, il croit bien faire.
Laissons-le un instant. Et je voudrais qu'on écoute maintenant une deuxième pause musicale, parce que Clara Luciani va nous donner quelques conseils et donner des conseils à Glypho aussi.
sa place,
pas même moi.
Quand tout me lasse, quand tout est dégueulasse, quand rien ne vaut la peine,
pas même moi.
Je pense aux fleurs qui sont parfaites, qui n'ont pas d'autre rôle que de l'être. Je pense aux fleurs et ces bêtes, mais j'envie leur beauté muette. Quand les faits divers me donnent des insomnies, je cherche un sens à ma longue errance, que rien ne me soulage,
rien ne me séduit.
Je pense aux fleurs qui sont parfaites, qui n'ont pas d'autre rôle que de l'être. Je pense aux fleurs et ses vers.
D'auteur. Christophe Hyde.
Nous écoutions une chanson de Clara Luciani intitulée Les fleurs, conseil qu'elle pouvait donner à Glypho. Et nous sommes de retour ensemble autour du micro avec Pascal Dessin pour son roman L'envers de la girafe, paru chez Rivage Noir. Alors, ce conseil de Clara Luciani, voilà, nous évoque un petit peu un attrait qu'on peut avoir pour la botanique, comme l'homme à la craie. Et quand j'ai lu L'envers de la girafe, dans les chapitres écrits à la voix de l'homme à la craie, il y a de nombreuses variétés, je ne sais pas comment vous appelez ça,
d'espèces,
et on voyage.
Alors, Sumatra.
Voilà, moi, la rose trémière, ça allait jusque-là. Pissenlit, ça allait parfaitement.
Après,
la senesson de Mazamé et la vergerette de Sumatra.
Ouais. Il y a aussi la vergerette du Canada à Toulouse. Ouais.
Et je me suis dit, on ne met pas ça dans un roman. Bien sûr, c'était... peut-être que voilà, vous inventez votre personnage qui est inspiré de quelqu'un de réel, mais sans avoir quand même un goût pour les plantes.
Ah si, parce que toute l'époque où Boris Pressec a sévi dans les rues de Toulouse, il nous a instruits.
Oui, c'est ça. Et donc vous avez un intérêt particulier.
Oui. Moi, de toute façon, le personnage est né grâce à lui. Pendant longtemps, je photographiais ces plantes et ces inscriptions. J'en ai fait une sorte de d'herbier photographique. Il est évident qu'ensuite, dans la construction de mon personnage, ça a été très facile, puisque au gré des chemins qu'il prenait dans les rues de Sainte-Agne, de Saint-Michel, je replaçais les plantes que j'avais découvertes et dont j'avais appris l'existence grâce à lui, la pariétaire de Judée, effectivement, le figuier des Otanto. Mais c'est En plus, il y a beaucoup de plantes entre guillemets invasives qui ont pris qui ont pris beaucoup de place dans nos vies, enfin dans nos villes, dans nos campagnes. Malheureusement, des fois, c'est compliqué, comme la renouée du Japon. Mais il y en a d'autres dans l'espace urbain. Voilà, c'est exotique, c'est joliment poétique.
Alors on dit souvent que le pêcheur lit la rivière et à l'endroit où... Mais en fait, vous regardez la ville avec l'œil d'un botaniste, ça doit complètement changer les perspectives.
Ça change tout, comme écouter la ville avec l'oreille d'un ornithologue, comme je suis. Mmh. On a une vision des quartiers qui est, je crois, plus variée, plus riche. Je suis toujours ému par des petites choses de mon environnement, notamment dans mon quartier. Et parfois, comme ça s'est produit il y a 2 semaines, je vois surgir justement les soi-disant jardiniers qui seraient censés connaître la nature et soudain tailler les haies, passer le coupe-fil le long des bordures en dévastant ce qui est en train de s'épanouir. Ça me blesse profondément parce que je crois qu'on perd quelque chose. J'ai vu récemment dans une copropriété élaguer un bosquet où je savais qu'à l'intérieur il y avait un merle, une merlette couvant ses œufs, et elle est passée d'un poil à côté du coupe-fil quand même, hein. Et je ne sais pas si la nichée s'est poursuivie. Donc voilà, oui, c'est une autre connaissance de l'espace urbain et ça occupe l'esprit. Non, mais je veux dire, c'est agréable de voir la ville d'une manière plus tendre, plus jolie.
Ça m'évoque le fait que dans les journées caniculaires, quand on n'a pas la climatisation et que la nuit on s'endort la fenêtre ouverte, le matin c'est le cœur des oiseaux.
Ouais.
Il reste encore des oiseaux, mais jusqu'à quand ?
Ah ben là, je pense qu'il y a un mieux, disons-le, en milieu urbain, puisque la disparition des produits phytosanitaires a des effets. Hein, il y a un retour des hirondelles, alors pas en masse malheureusement, mais il y a quelques colonies, notamment à Toulouse, qui se portent plutôt pas mal. Donc aujourd'hui, voilà, il y a un espoir dans les villes en termes de nature. Voilà. Après, on verra pas s'épanouir une grande faune en milieu urbain. On verra traîner ici ou là un renard, un furet, un hérisson.
Il y a une quinzaine d'années, j'avais vu à Cugnot une harde avec un sanglier quand même.
Ah ben, il y a des cochons sauvages, comme on dit, qui traversent Toulouse. Hein.
Ah oui,
tout à
fait. Vous me l'apprenez.
Oui. Non, mais il y a quelques faits, il y a eu quelques faits épiques. Hein. Naguère, il y a un sanglier notamment qui, rue Saint-Michel, s'était réfugié chez un boucher.
Ah bon.
Malheureusement, il n'a pas fini
c'est
la
le
journée.
C'est le coup de pied de l'âne.
Et puis bon. Une autre fois, un sanglier avait traversé la place du Capitole pour se réfugier dans une librairie.
En tout cas, on sent chez vous, évidemment, et c'est de notoriété publique, cette préoccupation écologique. Dans tous les livres que vous avez écrits, quels sont ceux dans votre bibliographie qui sont justement... évidemment, dans l'horizon qui nous manque, c'est évidemment la nature est très présente.
Oh, la nature est très très présente dans Cruelle Nature, qui porte bien son nom, puisqu'il met en scène un naturaliste, là aussi, éco-anxieux. Et lui, il avait un autre remède pour se soigner de cette éco-anxiété, c'était de ramasser des animaux morts au bord de la route dans un parc naturel et de faire des statistiques pour essayer d'encourager les autorités à limiter les vitesses sur les routes. Et donc, Cruelle Nature, Un homme doit mourir aussi, qui mettait en scène un écologiste chargé d'expertise, naturaliste en vue d'un projet industriel. Maintenant, le mal est fait aussi, à l'occasion d'un projet autoroutier en Normandie. Maintenant, le mal est fait, Cruelle Nature, Un homme doit mourir, celui-ci, bien évidemment. Mais beaucoup de mes livres que j'ai publiés depuis plus de 20 ans maintenant ont cette dimension naturaliste, en tout cas environnementaliste.
Et parmi les collègues, est-ce que vous auriez des conseils à donner qui sont un peu dans la même veine?
Ah ben, il y a Colin Niel surtout. D'accord. Je crois, hein. Ah oui. Essentiellement Colin Niel. Moi, longtemps, j'ai été seul hein, sur ces problématiques-là. C'est pas le propre du noir hein, de raconter la nature. Hein, la nature, il y a encore cette culture de la ville, la nuit, les bars, les endroits décalés, les banlieues extrêmes. Il y a le roman noir traite beaucoup depuis quelques années aussi de sujets plus internationaux à travers des guerres. Voilà, c'est tout le travail de Frédéric Pollin aujourd'hui. Mais sur la nature, longtemps, peut-être aussi parce que les auteurs s'y intéressaient peu ou pas du tout. Donc là, mais Colin Niel, essentiellement, je crois que je recommande à vos auditrices, vos auditeurs.
D'accord. On arrive bientôt à la fin de l'émission. Je voulais parler un peu des rendez-vous que vous pourriez donner aux auditeurs et aux auditrices de Radio Présence. Est-ce que vous êtes attendu dans des festivals?
Ah oui, il y a beaucoup de rendez-vous à l'automne, cet automne.
Je vais vous aider parce que oui. On avait préparé une fiche. Vous êtes au Festival des Cadavres Exquis ou Cadavres Exquis à Vigoulay-aux-Îles.
Voilà.
Les 27 et 28 septembre.
C'est un nouveau festival axé sur le livre d'histoire. Donc je vais trouver ma place là avec Un Colosse et puis 1886, l'affaire Jules Vatrin.
Il n'y aura pas le. Parce que vous aviez promis un triptyque pour.
Ah, il est pour bientôt.
Ah, super.
Voilà. Oui.
Ok.
Il faudra attendre un petit peu.
Et le festival, évidemment, Polar du Sud, Toulouse Polar du Sud, les 10, 11 et 12 octobre.
Voilà, avec peut-être des rencontres ici ou là dans les médiathèques de la région.
D'accord. J'aurais une question, peut-être ce ne sera pas tout à fait la dernière, mais vous en êtes où de votre obsession des girafidés? Qu'est-ce qui...
Non, mais oui.
Vous m'avez confié qu'on vous en envoyait.
Ah bah oui, j'ai un album photo formidable maintenant. Alors c'est formidable parce que les amis ou mes lecteurs ne sont obligés de penser à moi désormais parce que dès qu'ils rencontrent une girafe, donc je reçois des girafes d'Édimbourg, de Corse, de Nantes, d'un peu partout, en situation, c'est assez cocasse. Et puis j'ai beaucoup de mes lectrices et lecteurs qui m'offrent maintenant des girafes sous des formes variées, pendentifs, verre, petite peluche, voilà. Je vais ouvrir un musée. Je vais finir par ouvrir un musée.
Le musée de la girafe. Alors pour une, moi je vais vous offrir un souvenir personnel parce que je suis allé au zoo de Cazaux il y a quelques années avec mes enfants et c'était au moment du Covid. Alors on était déconfiné, mais il fallait garder le masque. Donc il y avait des humains, des sapiens avec leur masque. Et puis on montait à hauteur de la girafe et on lui donnait de quoi manger. Et j'ai vu que sa langue
était bleue.
Était bleue.
Oui, voilà.
Ouais. Voilà. Mais de la girafe, on apprend beaucoup dans votre livre en termes.
On peut pas tout apprendre, on peut pas tout dire. C'est pas non plus un essai sur la girafe.
Oui, bien sûr. Bien, nous arrivons au terme de l'émission et je vous remercie Pascal Dessin d'être venu dans les studios de Radio Présence pour parler de L'envers de la girafe paru chez Rivage Noir. Bon, c'est un roman choral qui tient les promesses de son titre énigmatique. Il fait voir comme tout bon roman noir l'envers du décor, l'envers des êtres, l'envers de la ville, mais il remet à l'endroit la force des liens dans le couple, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé.
Non.
Entre les amis et entre des gens de bonne volonté. Je remercie aussi Coraline Camebrac pour la prise de son et le soutien technique qui rend cette émission possible. Et cette émission, vous pouvez l'écouter, la réécouter sur le site de Radio Présente ou en podcast en la téléchargeant sur une plateforme bien connue. Merci.
Merci, au revoir.